sont libres. Un petit carillon au bord d'une maison.
Il n'y a jamais rien comme la prise de son réel, ça c'est sûr et certain. Si vous voulez avoir le gain, si vous voulez avoir le détail, même si vous voulez avoir une idée de comment l'espace se présente, de comment c'est rythmé, de ce qui a de l'intérêt sonore d'un endroit, c'est la prise de son qui va vous le donner, jamais autre chose.
Et donc, je me souviens qu'à l'époque, je travaillais à Bourges. Et dans Bourges, la ville était formidable pour le son parce que c'est une ville encore pavée. Et donc, la nuit, j'allais enregistrer les ivrognes qui se promenaient dans les rues, qui hurlaient, les loupards qui s'affrontaient ou les mobilettes qui passaient comme ça.
Chaque environnement, chaque lieu a son espace, a ses réverbérations, a sa sonorité.
Quand je pense aux gens aujourd'hui qui disent « je peux plus prendre de preneur de son, puis je prendrai pas des gros appareils, je vais tourner tout seul, ben je veux pas déranger quelqu'un », ça marchera pas, on va tuer le moment. Mais à l'époque, oui, j'ai des écouteurs, oui, la machine est grosse comme ça, puis ça dure 12 minutes ou 15 minutes maximum, ce qu'on fait. Fait que il y en a de « arrête, arrête, change les bobines ». Là, là, si on sortait, là, on ouvrait la porte du char, ils disaient « où c'est qu'on est? » Paf! Je pouvais agir sur ce qu'on faisait comme personne, tu sais, parce que je voulais quelque chose au son, on pouvait arrêter le tournage puis je faisais mon truc.
Le fait, je crois, de ne pas enregistrer en studio m'a fait comprendre que travailler dans des lieux, c'était plus que aborder la question de l'acoustique d'un espace, mais c'était penser la mise en scène de la prise de son.
T'as beau avoir les meilleurs outils, il y a des choses que ça, on n'arrive pas à côté le réel des fois.
Enfin, si on est suffisamment attentif, on entend ce qu'il nous dit, le son. Il nous dit que là, c'est pas possible. Voilà. Là, tu peux pas me prendre. C'est le bordel, il y en a trop. Et c'est insaisissable et ça refuse. Finalement, quand je suis dans un café et que je discute avec quelqu'un, j'oublie le café. Mais si je mets un microphone sur la table pour enregistrer la discussion que j'ai avec cette personne, quand je réécoute l'enregistrement, eh bien, ma voix et la voix de mon interlocuteur sont noyées dans cette ambiance.
J'entendais Bro récemment parler de comment filmer. Puis Bro, ce qu'il disait, il dit, il faut faire des plans. Le plan, ça va être ça. Il y a un début, il y a un développement, il y a une fin. Ou en tout cas, il y a une volonté de ramasser. Il dit, de nos jours, tu pourrais faire un plan de 25 heures, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec ça, à un moment donné, tu dessouffles, tu sais. Mais c'est comme cette idée-là de faire des plans, c'est un peu aussi la façon de travailler au son. Moi, au début, je t'ai apporté, hey, je voudrais tout enregistrer, regarde, écoute ça, puis Claude, à un moment donné, il disait, ben là, t'as une minute, tu sais. Genre, ciblons un petit peu, puis tu finis par écouter autrement aussi, tu sais. Tu réduis ton champ d'écoute, mais tu focuses un peu plus sur le sujet.
Non, mais c'est parce que t'es pas juste en train... T'es pas juste une machine qui capte ou juste... T'es pas juste un pied de microphone.
Le microphone est un objet idiot, quoi. Et c'est ça, le dilemme. Donc, quelle est la solution pour s'en sortir? C'est d'approcher le micro de la source, bien sûr. C'est-à-dire, mais en approchant le micro de la source, on change de point de vue. On n'est plus à distance du monde. Alors, comment faire pour décharger la quantité épouvantable de sonore que nous donne le microphone? Et c'est ça le problème majeur du sonore du cinéma direct. L'écoute du monde, c'est en fait pas du tout une écoute globalisante et totalisante telle que nous le donne le microphone. Notre écoute n'est pas celle-là. Notre écoute, c'est une écoute désirante.
Est-ce que si pour un réseau de médias importants, pour enregistrer la musique, on sait qu'à Montréal, ici, c'est incroyable, il y a même des musiciens qui se sont déplacés de Matane pour nous jouer. Non? C'est pas intéressant. C'est pas pertinent dans votre reportage. Oui?
Et la question de la perte est au moins aussi importante que la question de l'acquisition, et si ce n'est plus important. Il y a là quelque chose qui suppose finalement une mise en scène du son pour organiser son évacuation. C'est-à-dire que, pour moi, travailler dans le son direct suppose de choisir ses espaces sonores, de choisir les éléments sonnants dans cet espace et d'organiser le parcours que je vais faire dans la succession des événements qui vont surgir.
C'est parti. Là, t'es plus. Peut-être plus. Non. Ici, mettons. Des portes plus loin ou plus proches.
On parle de tout ça, tu sais, comme de la prise de son direct. Moi, j'ai appris ça avec Claude. La première fois où on a, le son était abordé autrement. Dans le sens que y avait une méthode pour enregistrer les gens, aller vers les gens, une technique d'approche. Claude, souvent, il commençait... on rencontrait quelqu'un, le microphone était ici.
Oui.
Puis là, vraiment progressivement, le micro avançait. Vraiment progressivement. Puis là, à un moment donné, la personne se rend compte que le micro approche. Elle regarde Claude, là, Claude regarde son appareil.
Être là pour pas être là. Être là, mais pas être là. Il n'y a pas de prise sur moi puis sur le micro?
Non, puis en plus, c'est que le fait que la personne se dise que c'est qui se passe, le micro approche, puis regarde Claude, puis Claude, il travaille. Donc, quand tu vois quelqu'un travailler, tu dis, bon, il fait sa job. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le micro, pendant ce temps-là, il approche. Puis à la fin, il est là.
Je crois beaucoup, en disant ça, que prendre le son, c'est avant tout penser à la mise en scène du son, au préalable. Il faut organiser les conditions de l'existence des sons pendant un temps donné, et de leur surgissement et de leur évanouissement. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental.
D'ailleurs, un peu plus éloigné de l'horrible climatiseur.
Prendre le son, c'était pas seulement se situer par rapport à un objet, mais c'était penser un parcours.
Et puis, un autre point.
Et un parcours parce que finalement, la question du son, c'est la question du temps. Et que le temps ne peut pas être considéré de manière fixe, c'est-à-dire selon un point de vue fixe, mais il fallait le remettre au relatif de l'évolution du phénomène.
Non, c'est fini. Non, je vais le rattraper l'autre bord d'un bâtiment.
Absolument.
Est-ce que pour vous, être un preneur de son, c'est d'abord le plus merveilleux moyen d'aller à Honfleur le matin, il fait froid?
C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a là... enfin, maintenant, je le fais moins, malheureusement, parce qu'il faut encore avoir une espèce de légèreté, peut-être que j'ai un peu perdu. Mais je pense que... Il y a toujours cet espace de solitude, d'abord, dans le monde du cinéma, des gens du son, et qui fait qu'on a la responsabilité on a vraiment la charge de recueillir des choses et de mettre à disposition des choses. finalement, prendre le son du cinéma, c'est peut-être même le seul endroit où on est face au cosmos, face au monde, face à la diversité des formes sonores et des placements des sources et de leur organisation.
Création sonore réalisée par Frédéric Dallaire et Simon Gervais. Par ordre d'apparition, avec les voix de Marcel Chouinard, Martin Allard, Simon Gervais, Daniel Déhay, Claude Beaugrand, Olivier Calvert, René Lucier, Serge Cardinal. Septembre 2010.